Alors, on va poursuivre notre étude, partage dans la lettre aux Philippiens. Et on va regarder aujourd'hui ce qui constitue le deuxième volet de ce qu'on avait vu il y a 15 jours. On avait vu un petit peu la première partie de ce vivant en citoyen du royaume de Christ. On va voir aujourd'hui cette deuxième partie. Donc, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, les chapitres 1, versets 27 à 2. 11. Et là, on va voir aujourd'hui, chapitre 2, versets 12 à 18. Mais avant, j'aimerais vous parler d'Aladin. Qui est-ce qui a vu le dessin animé de Disney, voire le film ? Ouais, il y a des adeptes, des fans de Disney. Trop bien. Trop bien. Alors peut-être pour ceux qui connaissent moins l'histoire... Aladin est un jeune homme qui, on voit au début du dessin animé, fait partie d'une basse classe sociale. Il est pauvre, il erre dans les rues, là où il habite, et puis il doit voler sa nourriture pour pouvoir manger. Et puis, dans le courant de sa vie, dans ce qu'il vit, il va rencontrer un jour dans les rues Jasmine, qui est la princesse, la fille du roi, de qui il tombe amoureux. Mais alors comment la conquérir alors que tout les sépare ? Oui, lui il est pauvre, elle est riche, elle est fille de roi. Et puis un jour il va trouver cette fameuse lampe d'Aladin, d'où un génie va sortir et lui propose d'accomplir trois de ses vœux. Bien sûr, Aladin n'hésite pas très très longtemps et le premier vœu qu'il fait... c'est que le génie fasse de lui un prince. Et c'est ce qui se passe, en un claquement de doigts, Aladin devient un prince. Et en fait, on ne peut pas se tromper en le voyant. Tout en le regardant montre qu'il est un prince. Il est habillé comme un prince, il vit et se comporte tel un prince. On le voit même à un moment donné faire son entrée en fanfare dans le palais du roi, où il y a Jasmine, et il est à dos d'éléphant, c'est tout en couleurs, avec une chorale, des musiciens, et tout un orchestre, des serviteurs, des servantes, qui sont donc à son service. Bref, on ne peut pas se tromper sur le fait que Aladin est bien devenu un prince, et ce serait même surprenant qu'en tant que prince, Aladin continue de vivre comme ce qu'il était avant. Et c'est un petit peu l'idée de notre passage ce matin que je vous invite à lire. Philippiens chapitre 2, et on va prendre les versets 12 à 18. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois souffrir, et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Ce passage donc nous parle du salut. Et c'est un encouragement à montrer par nos vies que nous sommes sauvés, en puisant notre motivation dans l'exemple de Christ et en comptant sur l'aide de Dieu. Et ce passage évoque deux choses à propos de notre salut. Nous avons été sauvés pour servir et nous avons été sauvés pour briller, qui seront les deux points donc de ce message ce matin. Nous sommes dans une partie de la lettre, rappelez-vous, où Paul donne toute une série d'exhortations, d'encouragements, et il utilise pour cela plusieurs impératifs. Faites ceci, faites cela. Mais nous en avons déjà parlé. Paul ne donne jamais ses exhortations sans communiquer la source, le moyen de vivre ces choses. Verset 12, il dit « Faites donc fructifier votre salut ». Le « donc » renvoie à tout ce que Paul vient de dire précédemment dans les versets 5 à 11. Il est en train de leur dire « En considérant la trajectoire de Christ, ce que Christ a fait pour vous, c'est-à-dire sa parfaite obéissance à la volonté de son Père, jusqu'à sa mort sur la croix, mais aussi son élévation glorieuse qui a suivi. Alors persévérez dans votre obéissance à Dieu, sur le modèle de Christ, comme vous l'avez fait si bien jusqu'à aujourd'hui. » Je ne sais pas pour vous, mais quoi de plus motivant que de réaliser jour après jour que Christ vous a sauvé, que son obéissance parfaite a été mise sur votre compte et qu'une vie glorieuse avec Christ vous est promise à la fin. Vous faites partie de son royaume. Comme Aladdin et Jasmine, vous êtes des princes et des princesses. Alors vivez comme des princes et des princesses. Montrez par votre vie que vous appartenez à Dieu. Ce ne serait pas logique d'avoir une voiture pour se rendre à Paris et d'y aller à pied. Ou d'avoir un voilier et d'utiliser des rames pour le faire avancer. Et c'est ce que Paul veut dire par « faites fructifier votre salut ». C'est traduit parfois dans d'autres versions par « travailler à votre salut ». Ce qui a pu laisser entendre que nous devons contribuer à notre salut. Mais ce n'est pas le cas. La Bible ne fait jamais la promotion d'un salut qui s'obtient par nos œuvres ou nos propres efforts. Le salut est gratuit et se reçoit par la repentance et la foi. Faire fructifier son salut, cela rejoint ce que Paul a dit dans le verset 27 du chapitre 1, c'est vivre d'une manière digne de l'Évangile. C'est montrer par notre façon de vivre que nous sommes chrétiens. C'est exprimer notre nouvelle identité par des actes. C'est donc une invitation à passer à l'action. Dieu nous a sauvés non pas pour que nous restions passifs dans notre manière de vivre avant de rencontrer Dieu, mais pour que nous puissions vivre pour lui, le servir, lui rendre gloire. Nous avons été sauvés pour servir. Paul encourage les chrétiens en ce sens, tout en prenant soin de leur rappeler que c'est Dieu lui-même qui agit dans leur vie pour leur donner le vouloir, peut-être dans d'autres traductions le désir, mais aussi le faire, l'énergie, au verset 13. Ce partenariat avec Dieu reste un vrai mystère. Quand je vis dans l'obéissance à Dieu, quand je le sers, quand je fais ce qui lui plaît, eh bien c'est Dieu qui est en train de produire en moi le désir et l'énergie de vivre ainsi. Se rappeler de cette vérité est un très bon antidote à l'orgueil dans nos vies. Il nous maintient et nous garde dans l'humilité, ce que Paul évoque depuis le début de ce chapitre 2, cette idée de cette vie les uns avec les autres dans l'humilité, dans l'altruisme. Alors de manière pratique, comment est-ce que je sers Dieu dans l'Église ? Est-ce que je suis acteur dans la vie de ma communauté ou est-ce que je suis consommateur? Comment est-ce que je contribue à l'unité de l'Église? Comment est-ce que je manifeste mon amour, on en a parlé ce matin, pour mes frères et sœurs de manière concrète et pratique? Comment est-ce que je les encourage? Comment est-ce que je m'implique dans les activités qui sont proposées? Comment est-ce que j'utilise les capacités naturelles ou spirituelles que Dieu m'a données pour servir mes frères et sœurs? Comment est-ce que j'accueille les nouvelles personnes qui viennent dans notre communauté? Même question, comment est-ce que je sers Dieu dans mon foyer? Comment est-ce que je montre à ma femme que je l'aime? Je suis désolé, chérie, je ne peux pas t'aider à plier le linge parce que Dieu n'a pas produit en moi le vouloir et le faire. Comment est-ce que je l'encourage dans sa relation avec Dieu? Comment est-ce que je valorise? Comment est-ce que je la valorise dans mes propos? Comment est-ce que j'enseigne et vis la grâce au quotidien avec mes enfants? Est-ce que je suis le premier à demander pardon ou est-ce que j'attends toujours que l'autre fasse le premier pas? Comment est-ce que je respecte mon mari? Comment est-ce que je l'encourage dans son travail, dans son engagement peut-être, dans l'Église, dans son rôle de père, etc., etc. On pourrait se poser le même type de questions. Comment est-ce que je sers Dieu dans ma ville? Comment est-ce que je sers Dieu dans mon travail, dans mon voisinage? Nous avons été sauvés pour servir. Et l'apôtre va plus loin et dit, nous avons été sauvés aussi pour briller. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur terre? Merci. Tout à fait. On pourrait se dire, maintenant que Dieu nous a sauvés, qu'il est notre roi, que nous lui appartenons, que nous faisons partie de son royaume, pourquoi est-ce qu'il ne nous reprend pas auprès de lui? Ouais. Une des raisons à cela, c'est que Dieu veut nous utiliser pour donner envie à toutes celles qui ne font pas encore partie de son royaume d'y entrer, de vivre pour Dieu, de vivre pour lui. Laquelle de ces photos, qu'on ne voit pas très bien, mais c'est aussi un peu le but, vous semble la plus attrayante? Ce sont deux photos de rue, une est dans la totale obscurité. L'autre, c'est une rue qui est éclairée. Exact. Pourquoi?
Parce qu'elle est plus éclairée, attirante que l'autre qui est dans le
sens. Ouais, tout à fait. La rue est plus à droite parce qu'elle est plus attrayante à droite parce qu'elle est éclairée. Paul dit, faites tout pour être des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans une autre de ses lettres, non pas dans une autre de ses lettres, mais c'est un écho à ce que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ces deux passages disent, en l'occurrence, que sur terre, deux royaumes coexistent. Il y a le monde rebelle à Dieu, un monde corrompu. Le terme original pour cela nous dit un monde scoliosé, ce qui a donné le terme scoliose, c'est-à-dire tordu à cause du péché qui est entré dans le monde avec Adam et Ève et dont nous faisions partie avant de rencontrer Dieu. Et au sein de ce monde, les enfants de Dieu, ceux qu'il a sauvés et qui font partie de son royaume, l'Église, qui sont appelés à briller. Il devrait donc y avoir un contraste entre notre vie avec Dieu aujourd'hui et notre vie d'avant, où nous étions sans Dieu. Et ce contraste devrait être aussi marqué, nous dit l'apôtre Paul, qu'un flambeau ou une étoile qui brille et rayonne au milieu de la nuit. Et Paul évoque deux manières par lesquelles le salut peut briller. Tout d'abord, par notre vie, dans les versets 14 et 15. Il dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, sans murmurer, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache. » En parlant de plainte et de murmure, Paul fait sans doute allusion aux plaintes et aux murmures du peuple d'Israël contre Moïse et contre Dieu, alors qu'ils se trouvaient dans le désert. Par cette attitude, les Israélites remettaient en cause, ils critiquaient d'une certaine manière les choix et la volonté de Dieu. Ils manifestaient par là un manque de confiance dans la bonté, dans l'amour et dans la providence de Dieu. En tant que chrétien, c'est en nous soumettant à la volonté de Dieu, en obéissant à ce qu'il nous demande, que nous pourrons briller et être en contraste avec ceux qui sont encore en dehors du royaume. Pourquoi ? Parce que la vie que Dieu veut pour nous est bien souvent à contre-courant de la pensée de ce monde qui a rejeté Dieu. Voici quelques exemples pratiques de la manière dont nous pouvons briller individuellement, mais aussi et surtout en tant qu'Église, en tant que communauté, parce que c'est à une communauté que l'apôtre Paul s'adresse, à une communauté de chrétiens. Je peux briller quand je choisis d'élever les autres plutôt que de me mettre en avant. Quand je considère les intérêts des autres plutôt que de les ignorer. Quand j'exprime ma reconnaissance plutôt que mon mécontentement. Quand je manifeste mon contentement plutôt que mon insatisfaction. Quand je décide de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Quand je fais le choix de me marier avec un ou une conjointe chrétienne. Quand je décide de rester fidèle à mon mari ou à ma femme. Quand je suis respectueux envers mes parents. Quand je donne le meilleur dans mon boulot, même quand mon responsable est absent. Quand je ne participe pas aux critiques sur un voisin. Quand je choisis l'encouragement plutôt que la médisance. Quand je choisis de ne pas tricher sur ma déclaration d'impôt. Quand je choisis de pardonner plutôt que de garder rancune. Quand je sacrifie mon temps et mon argent et que cela me coûte. Quand je fais le choix de ne pas me venger, etc., etc. C'est dans la succession quotidienne de tous ces petits et grands choix que nos vies vont refléter Christ et briller au sein de ce monde. Je cite l'auteur d'un livre qui a dit ceci. On nous a inculqué qu'il faut accomplir des choses exceptionnelles pour Dieu, mais c'est faux. En réalité, il nous faut être exceptionnel dans les choses ordinaires de la vie. Je relis. On nous a inculqué qu'il faut accomplir des choses exceptionnelles pour Dieu, mais c'est faux. En réalité, il nous faut être exceptionnel dans les choses ordinaires de la vie. Finalement, quand je persiste à vivre différemment de ce que Dieu attend de moi, non seulement c'est une manière de me plaindre et de murmurer contre lui en critiquant ses choix, en doutant de sa bonté et de son amour pour moi. Mais finalement, j'atténue aussi un peu du contraste avec les personnes qui sont encore au dehors. J'ai récemment entendu le témoignage de quelqu'un qui était interpellé par les propos d'une jeune femme qui s'exprimait au sein d'un groupe de maison. Et elle partageait ceci. « Je me rends compte combien j'ai du mal à parler de Jésus à mes amis non-croyants, parce qu'au final, ma vie chrétienne n'est pas si différente de la leur. » Paul dit « Faites tout sans vous plaindre et sans murmurer pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache. » En évoquant ce qu'on vient d'évoquer, il pourrait y avoir deux sentiments qui nous animent. Le premier, c'est peut-être celui de la culpabilité, et ce n'est absolument pas l'objectif ce matin. Mais peut-être qu'en pensant à cela, l'autre sentiment qui nous anime pourrait être l'orgueil, de se dire « mais j'arrive à vivre toutes ces choses-là ». Combien nous avons besoin de l'aide de Dieu et de son esprit pour vivre ces choses. Quand nous réussissons, rappelons-nous que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies et qui produit l'envie et l'énergie de vivre cela. Quand nous échouons, revenons autant de fois que nécessaire à la croix. Rappelons-nous de la grâce de Dieu, une grâce indépendante de nos performances. J'ai personnellement besoin de revenir encore et encore à la croix. Je nous laisse avec cette question. Dans quel domaine de nos vies est-ce que nous résistons encore à la volonté de Dieu ? La première manière par laquelle le salut peut briller, c'est par nos vies. La deuxième, nous dit Paul, c'est par l'Évangile. Briller comme des flambeaux en portant la parole de vie. Et nous retrouvons ici les deux aspects du témoignage chrétien. Nous brillons et témoignons de notre nouvelle vie à la fois par nos actes, que les gens peuvent voir, mais aussi en partageant la parole de vie, c'est-à-dire l'Évangile. Les gens doivent entendre ce message de l'Évangile qui nous le rappelle Paul par ailleurs, est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Dans une autre de ses lettres, Paul dit « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Pour être sauvés, les gens doivent croire en Jésus et la bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour eux et qui a été encore rappelé ce matin au travers de ce repas du Seigneur qui nous rappelle son sacrifice. Et pour croire, ils doivent donc entendre ce message. Et c'est à nous qu'il revient de partager ce message de vie à ceux qui nous entourent. Quand des gens de l'extérieur nous côtoient, individuellement, mais je réinsiste sur ça, aussi et avant tout, en tant que communauté, ils devraient goûter à ce qu'est une vie avec Dieu, fondée sur cet évangile. Et en entendant parler de Jésus et de l'évangile, il découvre la porte d'entrée de cette vie-là. De nouveau une question pour nous. Sommes-nous prêts à saisir les occasions que Dieu nous donnera cette semaine pour parler de Jésus ? Je termine avec ceci. Dans les derniers versets qu'on a lus, Paul termine en portant son regard vers le retour de Jésus-Christ. et il se voit entrant dans la gloire de Dieu avec ses frères et sœurs, plein de satisfaction en réalisant que tout ce qu'il a investi dans leur vie n'aura pas été inutile. Oui, vivre pour Dieu va demander des sacrifices. Oui, vivre pour Dieu, ça va être coûteux. Mais cette vie pour Dieu est la perspective de la gloire qui nous attend quand Christ reviendra, devrait être une source de grande joie. Et je relis avec vous les derniers versets. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous, vous aussi, de la même manière. Réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'aimerais nous laisser juste une ou deux minutes pour réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin et se poser un petit peu ces questions pour nos vies. Où est-ce que je suis ce matin? Est-ce que je fais partie de ce royaume de Dieu aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, peut-être de prendre ces quelques minutes pour réfléchir à qui est Jésus. Considérez encore ce qu'il a fait pour moi sur cette croix. Ce schéma que j'ai montré, cette trajectoire qu'il a suivie où il a quitté son ciel pour venir payer sur la croix les conséquences de ma vie sans Dieu et où il a été élevé ensuite. Si ce matin je fais partie de ce royaume, comment est-ce que je me situe dans ma vie? Qu'on puisse demander l'aide de Dieu, peut-être prier que le Seigneur nous aide à vivre comme ses témoins, qu'on vive pleinement cette vie parce qu'on n'a rien à perdre, tout est acquis, notre identité en Christ est acquise par Dieu. Alors prenons le temps de réfléchir à cela.